Chapitre 4. Je m'attendais, en rentrant, à trouver dans la cuisine un constable qui allait m'arrêter. Mais non seulement il n'y avait là aucun constable, mais on n'avait encore rien découvert du vol que j'avais commis. Mrs. Joe était tout occupée des préparatifs pour la solennité du jour, et Joe avait été posté sur le pas de la porte de la cuisine pour éviter de recevoir la poussière, chose que malheureusement sa destinée l'obligeait à recevoir tôt ou tard, toutes les fois qu'il prenait fantaisie à ma sœur de balayer les planchers de la maison.
« Où diable as-tu été ?»
Tel fut le salut de Noël de Mrs. Joe quand moi et ma conscience nous nous présentâmes devant elle. Je lui dis que j'étais sortie pour entendre chanter les Noëls.
« Ah, bien !» observa Mrs. Joe. « Tu aurais pu faire plus mal !»
Je pensais qu'il n'y avait aucun doute à cela.
Si je n'étais pas la femme d'un forgeron, et ce qui revient au même, une esclave qui ne quitte jamais son tablier, j'aurais été aussi entendre les Noëls, dit Mrs. Joe. Je ne déteste pas les Noëls, et c'est sans doute pour cette raison que je n'en entends jamais.
Joe, qui s'était aventuré dans la cuisine après moi, pensant que la poussière était tombée, se frottait le nez avec un petit air de conciliation. Pendant que sa femme avait les yeux sur lui, dès qu'elle les eut détournés, il mit en croix ses deux index, ce qui signifiait que Mrs. Joe était en colère. Cet état était devenu tellement habituel que Joe et moi, nous passions des semaines entières à nous croiser les doigts, comme les anciens croisés croisaient leurs jambes sur leur tombe. Nous devions avoir un dîner splendide, consistant en un gigot de porc mariné au chou et une paire de volailles rôties et farcies. On avait fait la veille au matin un magnifique mince pie, ce qui expliquait qu'on n'eût pas encore découvert la disparition du hachis, et le pudding était en train de bouillir. Ces énormes préparatifs nous forcèrent, avec assez peu de cérémonie, à nous passer de déjeuner.
« Je ne vais pas m'amuser à tout salir, après avoir tout nettoyé, tout lavé comme je l'ai fait !» dit Mrs. Joe. « Je vous le promets !»
On nous servit donc nos tartines dehors, comme si, au lieu d'être deux à la maison, nous eussions été 2000 hommes en marche forcée, et nous puisâmes notre part de lait et d'eau à même un pot sur la table de la cuisine, en ayant l'air de nous excuser humblement de la grande peine que nous lui donnions. Cependant, Mrs. Joe avait fait voir le jour à des rideaux tout blancs et accroché un volant à fleurs tout neuf au manteau de la cheminée pour remplacer l'ancien. Elle avait même découvert tous les ornements du petit parloir donnant sur l'allée, qui n'étaient jamais découverts dans un autre temps, et restait tous les autres jours de l'année enveloppé dans une froide et brumeuse gaze d'argent, qui s'étendait même sur les quatre petits caniches en faïence blanche qui ornaient le manteau de la cheminée, avec leur nez noir et leur panier de fleurs à la gueule, en face les uns des autres et se faisant pendant. Mrs. Joe était une femme d'une extrême propreté, mais elle s'arrangeait pour rendre sa propreté moins confortable et moins acceptable que la saleté même. La propreté est comme la religion. Bien des gens la rendent insupportable en l'exagérant. Ma sœur avait tant à faire qu'elle n'allait jamais à l'église que par procuration, c'est-à-dire quand Joe et moi nous y allions. Dans ses habits de travail, Joe avait l'air d'un brave et digne forgeron. Dans ses habits de fête, il avait plutôt l'air d'un épouvantail dans de bonnes conditions que toute autre chose. Rien de ce qu'il portait ne lui allait, ni ne semblait lui appartenir. Toutes les pièces de son habillement étaient trop grandes pour lui. Et lorsqu'à l'occasion de la première fête, il sortit de sa chambre, au son joyeux du carillon, il représentait la misère revêtue des habits prétentieux du dimanche. Quant à moi, je crois que ma sœur avait eu quelque vague idée que j'étais un jeune pêcheur, dont un policeman accoucheur s'était emparé, et qui lui avait remis pour être traité selon la majesté outragée de la loi. Je fus donc toujours traité comme si j'eusse insisté pour revenir au monde, malgré les règles de la raison, de la religion et de la morale, et malgré les remontrances de mes meilleurs amis. Toutes les fois que j'allais chez le tailleur pour prendre mesure de nouveaux habits, ce dernier avait ordre de me les faire comme ceux des maisons de correction et de ne me laisser sous aucun prétexte le libre usage de mes membres. Joe et moi, en nous rendant à l'église, devions nécessairement former un tableau fort émouvant pour les âmes compatissantes. Cependant, ce que je souffrais en allant à l'église n'était rien auprès de ce que je souffrais en moi-même. Les terreurs qui m'assaillaient toutes les fois que Mrs. Joe se rapprochait de l'office ou sortait de la chambre n'étaient égalés que par les remords que j'éprouvais de ce que mes mains avaient fait. Je me demandais, accablé sous le poids du terrible secret, si l'Église serait assez puissante pour me protéger contre la vengeance de ce terrible jeune homme, au cas où je me déciderais à tout divulguer. J'eus l'idée que je devais choisir le moment où, à la publication des bans, le vicaire dit « Vous êtes prié de nous en donner connaissance » pour me lever et demander un entretien particulier dans la sacristie. Si, au lieu d'être le saint jour de Noël, c'eût été un simple dimanche, je ne réponds pas que je n'eusse procuré une grande surprise à notre petite congrégation en ayant recours à cette mesure extrême. Monsieur Hopsle, le chantre, devait dîner avec nous, ainsi que Monsieur Hubble, le charron, et Mrs. Hubble, et aussi l'oncle Pumblechook, oncle de Joe que Mrs. Joe tâchait d'accaparer, fort grainetier de la ville voisine qui conduisait lui-même sa voiture. Le dîner était annoncé pour 1h30. En rentrant, Joe et moi nous trouvâmes le couvert mis. Mrs. Joe habillée, le dîner dressé et la porte de la rue, ce qui n'arrivait jamais dans d'autres temps, toute grande ouverte pour recevoir les invités. Tout était splendide, et pas un mot sur le larcin. La compagnie arriva, et le temps, en s'écoulant, n'apportait aucune consolation à mes inquiétudes. Monsieur Hopsle, avec un nez romain, un front chauve et luisant, possédait, en outre, une voix de basse dont il n'était pas fier à moitié. C'était un fait avéré parmi ses connaissances que si l'on eût pu lui donner une autre tête, il eût été capable de devenir clergyman, et il confessait lui-même que si l'église eût été ouverte à tous, il n'aurait pas manqué d'y faire figure, mais que l'église n'étant pas accessible à tout le monde, il était simplement, comme je l'ai dit, notre chantre. Il entonnait les réponses d'une voix de tonnerre qui faisait trembler, et quand il annonçait le psaume, en ayant soin de réciter le verset tout entier, il regardait la congrégation réunie autour de lui d'une manière qui voulait dire « Vous avez entendu, mon ami, là-bas derrière? Eh bien, faites-moi maintenant l'amitié de me dire ce que vous pensez de ma manière de répéter le verset. » C'est moi qui ouvris la porte à la compagnie, en voulant faire croire que c'était dans nos habitudes. Je reçus d'abord Monsieur Hopsle, puis Mrs. Humble, et enfin l'oncle Pumblechook. Notez bien, je ne devais pas l'appeler mon oncle sous peine des punitions les plus sévères.
« Mistress Joe, » dit l'oncle Pumblechook, homme court et gros et à la respiration difficile, ayant une bouche de poisson, des yeux ternes et étonnés, et des cheveux roux se tenant droit sur son front, qui lui donnaient toujours l'air effrayé.
« Je vous apporte, avec les compliments d'usage, madame, une bouteille de sherry. Et je vous apporte aussi, madame, une bouteille de Porto. »
Chaque année à Noël, il se présentait comme une grande nouveauté, avec les mêmes paroles exactement, et portant ses deux bouteilles comme deux sonates muettes. De même, chaque année à la Noël, Mrs. Joe répliquait comme elle le faisait ce jour-là.
« Oh, mon nom Pumblechook, c'est bien bon de votre part !»
De même aussi, chaque année à Noël, l'oncle Pumblechook répétait comme il répliqua en effet ce même jour,
« Ce n'est pas plus que vous ne méritez. Êtes-vous tous bien portants? Comment va le petit, qui ne vaut pas le sixième d'un sou ?»
C'est de moi qu'il voulait parler. En ces occasions, nous dînions dans la cuisine, et l'on passait au salon, où nous étions aussi empruntés que Joe dans ses habits du dimanche, pour manger les noix, les oranges et les pommes. Ma sœur était vraiment sémillante ce jour-là, et il faut convenir qu'elle était plus aimable pour Mrs. Hubble que pour personne. Je me souviens de Mrs. Hubble comme d'une petite personne habillée en bleu de ciel, des pieds à la tête, au contour aigu, qui se croyait toujours très jeune, parce qu'elle avait épousé Mr. Hubble, je ne sais à quelle époque reculée, étant bien plus jeune que lui. Quant à Mr. Hubble, c'était un vieillard voûté, haut d'épaule, qui exhalait un parfum de cire de bois. Il avait les jambes très écartées l'une de l'autre, de sorte que, quand j'étais tout petit, je voyais toujours entre elles quelques miles de pays, lorsque je le rencontrais dans la rue. Au milieu de cette bonne compagnie, je ne me serais jamais senti à l'aise, même en admettant que je n'eusse pas pillé le garde-manger. Ce n'est donc pas parce que j'ai été placé à l'angle de la table que cet angle m'entrait dans la poitrine et que le coude de Mr. Pumblechook m'entrait dans l'œil que je souffrais, ni parce qu'on ne me permettait pas de parler, et je n'en avais guère envie, ni parce qu'on ne me régalait pas avec les bouts de pâte de volaille et avec ces parties obscures du porc dont le cochon, de son vivant, n'avait eu aucune raison de tirer vanité. Non, je ne me serais pas formalisée de tout cela, s'il avait voulu seulement me laisser tranquille, mais il ne voulait pas. Il semblait ne pas vouloir prendre une seule occasion d'amener la conversation sur moi, et ce jour-là, comme toujours, chacun semblait prendre à tâche de m'enfoncer une pointe et de me tourmenter. Je devais avoir l'air d'un de ces infortunés petits taureaux que l'on martise dans les arènes espagnoles, tant j'étais douloureusement touchée par tous ces coups d'épingle moraux. Cela commença au moment où nous nous mîmes à table. Monsieur Hoopsle dit les grâces d'un ton aussi théâtral et aussi déclamatoire. Du moins, cela me fait cet effet-là maintenant, que s'il eût récité la scène du fantôme d'Hamlet ou celle de Richard III. Et il termina avec la même emphase que si nous avions dû vraiment lui en être reconnaissants. Là-dessus, ma sœur fixa ses yeux sur moi et me nie d'un ton de reproche.
« Qui entend cela? Rends grâce, sois reconnaissant !»«
Rends surtout grâce !» dit Monsieur Pumblechook, « à ceux qui t'ont élevé, mon garçon !»
Mrs. Hubble secoua la tête en me contemplant avec le triste pressentiment que je ne ferais pas grand-chose de bon et demanda
« Pourquoi donc les jeunes gens sont-ils toujours ingrats ?»
Ce mystère moral sembla trop profond pour la compagnie, jusqu'à ce que Monsieur Hubble en eût, enfin, donné l'explication en disant
« C'est parce qu'ils sont naturellement vicieux !»
Et chacun de répondre « C'est vrai !» et de me regarder de la manière la plus significative et la plus désagréable. La position et l'influence de Joe étaient encore amoindries, s'il est possible, quand il y avait du monde, mais il m'aidait et me consolait toujours quand il le pouvait. Par exemple, à dîner, il me donnait de la sauce quand il en restait. Ce jour-là, la sauce était très abondante, et Joe en versa au moins une demi-pinte dans mon assiette. Un peu plus tard, M. Hoopsle fit une critique assez sévère du sermon et insinua dans le cas hypothétique où l'église aurait été ouverte à tout le monde, quel genre de sermon il aurait fait. Après avoir rappelé quelques-uns des principaux points de ce sermon, il remarqua qu'il considérait le sujet comme mal choisi, ce qui était d'autant moins excusable qu'il ne manquait certainement pas d'autre sujet.
« C'est encore vrai ?»
dit l'oncle Pumblechook.
« Vous avez mis le doigt dessus, monsieur. Il ne manque pas de sujet en ce moment. Le tout est de savoir leur mettre un grain de sel sur la queue comme au moineau. Un homme n'est pas embarrassé pour trouver un sujet s'il a sa boîte à sel toute prête. »
Monsieur Pumblechook ajouta après un moment de réflexion.
« Tenez, par exemple, le porc. Voilà un sujet. Si vous voulez un sujet, prenez le porc. »
« C'est vrai, monsieur, » reprit Monsieur Hoopsle. « Il y a plus d'un enseignement moral à en tirer pour la jeunesse. » Je savais bien qu'il ne manquerait pas de tourner ses yeux vers moi en disant ces mots-là.
« As-tu écouté cela, toi? Puisses-tu en profiter ?»
me dit ma sœur d'un ton sévère en matière de parenthèse. Joe me donna encore un peu de sauce. « Les pourceaux, » continua Monsieur Hoopsle de sa voix la plus grave en me désignant avec sa fourchette, comme s'il eût prononcé mon nom de baptême,
les pourceaux furent les compagnons de l'enfant prodigue. La gloutonnerie des pourceaux n'est-elle pas un exemple pour la jeunesse ?
Je pensais en moi-même que cela était très bien pour lui qui avait loué le porc d'être aussi gras et aussi savoureux.
Ce qui est détestable chez un porc est bien plus détestable encore chez un garçon.
Ou chez une fille,
suggéra Monsieur Hubble.
Ou chez une fille, bien entendu, Monsieur Hubble,
répéta Monsieur Hoopsle avec un peu d'impatience.
Mais il n'y a pas de fille ici. Sans compter,
dit Monsieur Pumblechook en s'adressant à moi,
« que tu as à rendre grâce de ne pas être né cochon de lait. »«
Mais il l'était, messieurs !»
s'écria ma sœur avec feu.
« Il était autant qu'un enfant peut l'être !»
Joe me redonna encore de la sauce.
« Bien, mais je ne veux pas parler d'un cochon à quatre pattes !»
dit Monsieur Pumblechook.
« Si tu es né comme cela, serais-tu ici maintenant ? Non, n'est-ce pas ?
Si ce n'est sous cette forme ?» dit Monsieur Hoopsle en pontrant le plat.
« Mais je ne parle pas de cette forme, monsieur !»
repartit Monsieur Pumblechook qui n'aimait pas qu'on l'interrompît.
« Je veux dire qu'il ne serait pas ici, jouissant de la vie de ses supérieurs et de ses aînés, profitant de leur conversation et se roulant au sein des voluptés. Aurait-il fait tout cela ? Non, certes. Et quelle eût été ta destinée ?
Ajouta-t-il en me regardant de nouveau.
« On t'aurait vendu moyennement une certaine somme, selon le cours du marché. » Et Dunstable, le boucher, serait venu te chercher sur la paille de ton étable. Il t'aurait enlevé sous son bras gauche et, de son bras, t'aurait-il arraché à la vie à l'aide d'un grand couteau. Tu n'aurais pas été élevé à la main, Non, rien de la sorte ne te fut arrivé.
Joe m'offrit encore de la sauce que j'avais honte d'accepter.
Cela a dû être un bien grand tracas pour vous, madame, dit Mrs. Hubble en plaignant ma sœur.
Un enfer, madame, un véritable enfer,
répéta ma sœur.
Ah, si vous saviez!
Elle commença alors à passer en revue toutes les maladies que j'avais eues, tous les méfaits que j'avais commis, toutes les insomnies dont j'avais été cause, toutes les mauvaises actions dont je m'étais rendue coupable, tous les endroits élevés desquels j'étais tombée, tous les trous au fond desquels je m'étais enfoncée, et tous les coups que je m'étais donnés. Elle termina en disant que toutes les fois qu'elle aurait désiré me voir dans la tombe, j'avais constamment refusé d'y aller. Je pensais alors, en regardant Monsieur Hoopsle, que les Romains avaient dû pousser à bout les autres peuples avec leur nez, et que c'est peut-être pour cette raison qu'ils sont restés le peuple remuant que nous connaissons. Quoi qu'il en soit, le nez de Monsieur Hoopsle m'impatientait si fort que pendant le récit de mes fautes, j'aurais aimé le tirer jusqu'à faire crier son propriétaire. Mais tout ce que j'endurais pendant ce temps n'est rien auprès des affreux tourments qui m'assaillirent lorsque fut rompu le silence qui avait succédé au récit de ma sœur. Silence pendant lequel chacun m'avait regardé, comme j'en avais la triste conviction, avec horreur et indignation.
« Et pourtant, »
dit M. Pobletchuk, qui ne voulait pas abandonner ce sujet de conversation,
« le porc, bouilli, est un excellent manger, n'est-ce pas ?»«
Un peu d'eau de vie, mon oncle, » dit ma sœur.
Au ciel, le moment était venu. L'oncle allait trouver qu'elle était faible, il le dirait, j'étais perdue. Je me cramponnai au pied de la table, et j'attendis mon sort. Ma sœur alla chercher la bouteille de grès, revint avec elle, et versa de l'eau de vie à mon oncle, qui était la seule personne qui en prit. Ce malheureux homme jouait avec son verre. Il le soulevait, le plaçait entre lui et la lumière, le remettait sur la table. Et tout cela ne faisait que prolonger mon supplice. Pendant ce temps, Mrs. Joe, et Joe lui-même, faisaient table nette pour recevoir le pâté et le pudding. Je me cramponnais toujours avec une énergie fébrile au pied de la table, avec mes mains et mes pieds. Je vis enfin la misérable créature porter le verre à ses lèvres, rejeter sa tête en arrière et avaler sa liqueur d'un seul trait. L'instant d'après, la compagnie était plongée dans une inexprimable consternation. Jeter à ses pieds ce qu'il tenait à la main, se lever et tourner deux ou trois fois sur lui-même, crier, tousser, danser dans un état spasmodique, épouvantable, fut pour lui l'affaire d'une seconde. Puis il se précipita dehors et nous le vîmes, par la fenêtre, en proie à de violents efforts pour cracher et expectoré au milieu de contorsions hideuses et paraissant avoir perdu l'esprit. Je tenais mon pied de table avec acharnement, pendant que Mrs. Joe et Joe s'élancèrent vers lui. Je ne savais pas comment, mais sans aucun doute, je l'avais tué. Dans ma terrible situation, ce fut un soulagement pour moi de le voir rentrer dans la cuisine. Il en fit le tour en examinant toutes les personnes de la compagnie, comme si elles eussent été cause de sa mésaventure. Puis il se laissa tomber sur sa chaise, en murmurant avec une grimace significative.
« De l'eau de goudron !»
J'avais rempli la bouteille d'eau de vie avec la cruche à l'eau de goudron pour qu'on ne s'aperçût pas de mon larcin. Je savais ce qui pouvait lui arriver de pire. Je secouais la table comme un médium de nos jours par la force de mon influence invisible.
« Du goudron ?» s'écria ma sœur, étonnée au plus haut point. « Comment l'eau de goudron a-t-elle pu se retrouver là ?»
Mais l'oncle Pobletchuk, qui était tout puissant dans cette cuisine, ne voulut plus entendre un seul mot de cette affaire. Il repoussa toute explication sur ce sujet en agitant la main, et il demanda un grog chaud au gin. Ma sœur, qui avait commencé à réfléchir et à s'alarmer, fut alors forcée de déployer toute son activité en cherchant du gin, de l'eau chaude, du sucre et du citron. Pour le moment du moins, j'étais sauvée. Je continuai à serrer entre mes mains le pied de la table, mais cette fois, c'était avec une affectueuse reconnaissance. Bientôt, je repris assez de calme pour manger ma part de pudding. Monsieur Pumblechook lui-même en mangea sa part, tout le monde en mangea. Lorsque chacun fut servi, Monsieur Pumblechook commença à rayonner sous la bienheureuse influence du grog. Je commençais, moi, à croire que la journée se passerait bien, quand ma sœur dit à Joe de donner des assiettes propres, pour manger les choses froides. Je ressaisis le pied de la table, que je serrai contre ma poitrine, comme s'il eût été le compagnon de ma jeunesse et l'ami de mon cœur. Je prévoyais ce qui allait se passer, et cette fois, je sentais que j'étais réellement perdue.
« Vous allez en goûter !» dit ma sœur en s'adressant à ses invités avec la meilleure grâce possible. « Vous allez en goûter pour faire honneur au délicieux présent de l'oncle Pumblechook !»
Devait-il vraiment y goûter? Qu'il ne l'espère pas.
Vous saurez, dit ma sœur en se levant, que c'est un pâté, un savoureux pâté au jambon.
La société se confondit en compliments. L'oncle Pumblechook, enchanté d'avoir bien mérité de ses semblables, s'écria.
Eh bien, Mistress Dieu, nous ferons de notre mieux. Donnez-nous une tranche du dit pâté.
Ma sœur sortit pour le chercher. J'entendais ses pas dans l'office. Je voyais Monsieur Pumblechook aiguiser son couteau. Je voyais l'appétit renaître dans les narines du nez romain de Monsieur Hoopsle. J'entendais Monsieur Hubble faire remarquer qu'un morceau de pâté au jambon était meilleur que tout ce qu'on pouvait s'imaginer et n'avait jamais fait de mal à personne. Quant à Joe, je l'entendis me dire à l'oreille.
« Tu y goûteras, mon petit Pip. »
Je n'ai jamais été tout à fait certain si, dans ma terreur, je proférais un hurlement, un cri perçant, simplement en imagination, ou si les oreilles de la société en entendirent quelque chose. Je n'y tenais plus. Il fallait me sauver. Je lâchai le pied de la table et courus pour chercher mon salut dans la fuite. Mais je ne courus pas bien loin, car, à la porte de la maison, je me trouvai en face d'une escouade de soldats armés de mousquets. L'un d'eux me présenta en paire de menottes en disant
« Ah, te voilà! Enfin nous le tenons, en route !»